Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1932. Les deux sources de la morale et de la religion est le dernier grand ouvrage de Henri Bergson et l'aboutissement social, moral et religieux de sa philosophie de la vie. Cet essai ne propose ni une histoire des doctrines morales, ni une défense conventionnelle de la religion. Il cherche à identifier les forces psychologiques et vitales qui rendent possible la cohésion des groupes, l'obligation morale, les croyances collectives, mais aussi leur dépassement créateur. Bergson distingue ainsi une morale close, liée à la pression sociale, d'une morale ouverte, animée par l'aspiration et l'exemple des grandes personnalités. Il établit un parallèle entre religion statique, protectrice et stabilisatrice, et religion dynamique, portée par l'expérience mystique. Écrit dans un contexte marqué par la guerre et l'expansion technique, le livre interroge la capacité de l'humanité à employer sa puissance sans rester prisonnière de ses réflexes collectifs. Il articule donc psychologie, sociologie, philosophie politique et métaphysique dans une réflexion exigeante sur la liberté humaine. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la morale close explique la force sociale de l'obligation. Bergson part d'un fait ordinaire mais décisif, une grande part de la conduite morale ne résulte pas d'une délibération individuelle à partir de principes universels. Elle procède de règles, d'habitudes et d'attentes incorporées au sein d'un groupe. La morale close désigne cette organisation de l'obligation. Elle protège la cohésion de la société en invitant ses membres à tenir leur rôle, à respecter les usages et à privilégier ceux qui appartiennent à leur communauté. Elle est close non parce qu'elle serait nécessairement immorale, mais parce que son horizon demeure celui d'un cercle déterminé. La famille, la cité ou la nation y constituent des appartenances qui commandent solidarité interne et opposition possible envers l'extérieur. Bergson refuse ainsi de réduire le devoir à une idée purement rationnelle, il l'analyse aussi comme une pression sociale devenue presque automatique. Cette analyse éclaire pourquoi des normes peuvent paraître incontestables à ceux qui les suivent, tout en restant historiquement et socialement limitées. La morale close est indispensable à l'existence collective quotidienne, car aucune société ne peut subsister sans régularité ni discipline. Cependant, elle ne suffit pas à fonder une fraternité réellement universelle. Son danger apparaît lorsqu'une loyauté légitime envers les siens se transforme en hostilité organisée envers les autres. Le livre place donc la question morale dans une tension concrète entre conservation du groupe et dépassement de ses frontières. Deuxièmement, la morale ouverte repose sur l'appel créateur plutôt que sur la contrainte. À la pression de la morale close, Bergson oppose la morale ouverte, qu'il définit par une dynamique d'aspiration. Il ne s'agit pas simplement d'étendre progressivement les obligations existantes à un plus grand nombre de personnes. Une telle extension resterait souvent abstraite si elle ne transformait pas le ressort même de l'action. La morale ouverte procède d'un élan suscité par des individus exceptionnels, tels que les saints, les héros ou les grands réformateurs, dont l'existence rend sensible une manière plus libre et plus généreuse de vivre. Leur influence ne fonctionne pas comme un ordre social, elle agit par appel, exemple et émotion profonde. Chez Bergson, cette émotion n'est pas un sentiment passager ou une agitation irrationnelle. Elle mobilise la personne entière et peut convertir une disposition intérieure en action. L'amour de l'humanité qui en découle ne vise plus seulement une collectivité définie. Il tend, en droit, vers un horizon sans limite fixe. Cette perspective permet à Bergson de penser une universalité vécue plutôt qu'une universalité seulement formulée. Elle explique également pourquoi le progrès moral ne découle pas mécaniquement des institutions ou des raisonnements. Des institutions justes demeurent nécessaires, mais elles ont besoin d'être continuellement revivifiées par des forces créatrices. La distinction entre clôture et ouverture évite donc deux simplifications condamner toute règle sociale ou croire que les règles suffisent à produire la liberté morale. Troisièmement, religion statique et fabulation face à l'incertitude humaine, Bergson analyse la religion statique à partir de sa fonction sociale et psychologique. L'intelligence humaine donne aux individus une conscience aiguë de leur vulnérabilité, de l'imprévisibilité des événements et de la mort. Or, cette lucidité peut affaiblir l'élan nécessaire à l'action et à la cohésion. La fonction fabulatrice désigne la capacité à produire des représentations, récits et croyances qui répondent à cette fragilité. Dans cette perspective, la religion statique aide les sociétés à stabiliser les conduites, à soutenir l'espérance et à renforcer l'adhésion aux règles communes. L'analyse bergsonienne ne signifie pas que toute croyance religieuse serait une simple illusion volontaire ou une tromperie organisée. Elle cherche plutôt à comprendre comment certaines formes religieuses peuvent remplir une fonction de protection contre les effets dissolvants d'une intelligence entièrement livrée, au calcul et à l'inquiétude. Cette approche met en évidence l'ambivalence de la religion sociale. Elle peut contenir la violence interne, donner une forme symbolique aux obligations et maintenir des liens collectifs. Mais, lorsqu'elle se confond avec l'intérêt d'un groupe fermé, elle peut aussi consacrer ses frontières et justifier son opposition aux autres groupes. Bergson ne traite donc pas la religion comme un bloc homogène. Sa distinction permet d'examiner les croyances selon leur mouvement effectif, renforce-t-elle, surtout, la conservation d'un ordre particulier ? Ou ouvre-t-elle les individus à une transformation de leur rapport au monde et à autrui ? Quatrièmement, le mysticisme devient chez Bergson une expérience d'action et de création. La religion dynamique constitue le versant positif et transformateur de l'analyse religieuse. Bergson y accorde une importance particulière au mysticisme, notamment chrétien. Non pour imposer une théologie confessionnelle, mais parce qu'il y voit l'expérience la plus intense d'une ouverture à la vie créatrice. Le mystique accompli ne se retire pas nécessairement du monde dans une contemplation immobile. Son expérience se prolonge en action, en amour créateur et en capacité de renouveler les manières de vivre ensemble. Bergson relie ainsi la mystique à sa philosophie antérieure de la durée, de la liberté et de l'élan vital. Loin d'être une addition étrangère à son œuvre, elle représente l'approfondissement d'une pensée selon laquelle le réel vivant ne se laisse pas réduire à des mécanismes fixes. La figure mystique manifeste une liberté qui ne consiste pas seulement à choisir entre des options données, mais à faire surgir une orientation nouvelle. Cette idée explique le rôle moral des personnalités exemplaires, elles ne transmettent pas d'abord un système de règles. Elles communiquent une impulsion qui rend possible une création éthique. Cette lecture demeure discutée, notamment parce qu'elle donne une place philosophique considérable à l'expérience mystique et à ses interprétations. Sa singularité réside précisément dans ce refus de séparer radicalement métaphysique, éthique et vie concrète. Pour Bergson, l'ouverture morale la plus profonde est inséparable d'une expérience de la création qui dépasse l'intérêt social immédiat. En dernier lieu, la technique et la guerre imposent un supplément d'orientation morale. Les pages finales des deux sources inscrivent les distinctions morales et religieuses dans une réflexion politique sur la guerre, la technique et l'avenir commun de l'humanité. Bergson observe que les sociétés humaines disposent d'une puissance matérielle croissante, tandis que leur tendance à la clôture, à la rivalité et à la violence ne disparaissent pas pour autant. La technique n'est donc ni mauvaise en elle-même, ni automatiquement porteuse de progrès moral. Elle amplifie les capacités humaines et, selon les fins qui l'orientent, peut servir la coopération ou rendre les conflits plus destructeurs. Cette thèse donne à son diagnostic une portée durable, le développement des moyens ne garantit pas la maturité des fins. La formule du supplément d'âme doit être comprise dans ce cadre. Elle ne recommande pas un vague spiritualisme destiné à compenser la modernité. Elle désigne l'exigence d'une conversion morale capable de proportionner l'ouverture humaine à la puissance que les sociétés ont acquise. Bergson n'idéalise pas non plus une sortie simple de la politique ou des institutions. La démocratie, l'organisation internationale et la maîtrise des moyens techniques exigent des choix pratiques. Mais ces dispositifs risquent de rester fragiles s'ils ne sont pas soutenus par un mouvement réel d'ouverture. Le livre se distingue ainsi des philosophies du progrès qui assimilent l'accumulation scientifique à l'amélioration éthique. Il oblige à penser ensemble les conditions biologiques et sociales de la violence, les inventions humaines et la possibilité toujours précaire d'une solidarité plus vaste. En conclusion, les deux sources de la morale et de la religion s'adressent surtout aux lecteurs de philosophie morale, de philosophie politique, de sociologie des croyances et de philosophie de la religion. Il conviendra particulièrement à ceux qui souhaitent comprendre pourquoi les normes collectives sont à la fois nécessaires et insuffisantes, ou pourquoi l'universalisme moral ne se réduit pas à une formule abstraite. Sa lecture demande de l'attention. Bergson construit des distinctions conceptuelles denses et dialogue avec les sciences humaines de son époque. En retour, le livre fournit des outils remarquablement féconds pour analyser le nationalisme, la violence entre groupes, le rôle social des croyances et l'ambivalence du progrès technique. Son bénéfice intellectuel principal est de déplacer la question morale du seul terrain des règles vers celui des forces qui font agir pression, habitude, émotion, exemple, aspiration et création, par rapport à des traités d'éthique centrés sur le devoir rationnel ou le calcul des conséquences. Bergson propose une approche plus psychologique et plus dynamique des origines de la moralité, par rapport à des critiques simplement hostiles de la religion. Il en étudie les fonctions sociales tout en réservant une place à l'expérience mystique comme source possible de transformation. Cette double perspective fait l'originalité du livre. Il ne promet pas de résoudre les conflits humains par une doctrine prête à l'emploi, mais montre que la puissance des institutions et des techniques doit être accompagnée d'une ouverture morale continuellement recréée. C'est un texte exigeant, parfois contesté, mais essentiel pour penser les rapports entre société, liberté et destin collectif. Si vous souhaitez soutenir Henri Bergson, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.